Musique et moi, une émission en partenariat avec le magazine Grazia.
Musique et moi.
Caroline Eliachef.
Elsa Boublil.
Il faut renoncer à l'espoir d'un passé meilleur.
Hervé Nialom. C'est sur cette valse en ut dièse mineur opus 64 numéro 2 de Frédéric Chopin que nous vous accueillons, Caroline Eliachef, psychanalyste et pédopsychiatre, scénariste et écrivain. Vous avez écrit de nombreux ouvrages sur la relation, dont Accord et Acri, Mère-fille, une relation à trois. Aujourd'hui, vous nous offrez le bonheur de passer une journée particulière avec Françoise Dolto, un ouvrage dans lequel on sent votre relation à elle dans l'héritage que vous en avez, votre perception de cette personne droite, profonde, loyale et empathique. Un essai que vous publiez chez Flammarion et qui retrace la la vie et les combats de Françoise Dolto à travers une journée du début de l'année 79, année charnière pour elle, dans laquelle beaucoup des enjeux de l'avenir et du passé se croisent et qui résonne donc éminemment avec la phrase d'Irving Yalom. Bonjour Caroline Eliashev.
Bonjour.
C'est vrai que cette phrase d'Irving Yalom résume presque le livre, Une journée particulière.
Oui, on peut dire ça, mais cette phrase est mystérieuse. Et en même temps, quand on écoute des personnes à longueur de journée ou d'année, elle est très profonde parce que on entend des personnes qui ont une enfance que nous trouvons, quand ils nous la racontent, absolument abominable et qui essaient désespérément de compatir, etc., etc. Donc cette phrase m'a beaucoup amusée. Irving Yalom est un conteur extraordinaire et il vient de publier un dernier livre où il raconte à la fois sa vie, ses patients, etc. Et Françoise Dolto, elle, disait que une fois qu'on a pris sa retraite et donc on ne reçoit plus de patients au quotidien, eh bien les psychanalystes, et je pense qu'elle pensait également aux psychiatres probablement, devraient avoir à cœur d'expliquer aux gens qui veulent bien les lire comment ils s'en sont arrivés à faire ce métier. Irving Yalom est tout à fait dans cette lignée-là.
Alors, cette phrase est venue à l'homme, et puis bien sûr, cette valse pour commencer. Le principe de l'émission étant de dresser votre portrait à travers vos goûts musicaux. On commence avec une valse qui remonte à l'enfance, je crois.
Oui, alors c'est drôle parce que quand j'ai entendu les premières notes, immédiatement, parce que j'ai choisi ces morceaux il y a un petit moment, donc entre-temps j'ai un peu oublié, et immédiatement en entendant cette valse, c'est un souvenir d'enfance très prégnant, c'est-à-dire que je prenais des cours de danse, et c'est sur cette valse qui était absolument massacrée par une pianiste absolument épouvantable, que j'essayais péniblement
d'entendre le 1, 2, 3, 1.
C'était horrible, et en même temps je l'entendais de façon répétitive, et donc il suffit que j'entende trois notes pour me revoir dans ce cours de danse où moi-même j'étais pas forcément très douée, mais je ne le savais pas encore.
Un portrait musical avec la pédopsychiatre Caroline Eliashev, dont le livre Une journée particulière vient de paraître chez Flammarion jusqu'à 12h30 sur France Musique.
Thank you.
Vladimir Horowitz interprète cet impromptu en sol bémol majeur, opus 90 numéro 3 de Franz Schubert. Pour poursuivre cette conversation avec vous, Caroline Eliashev, alors c'est très intime, hein, la ligne mélodique paraît presque être une réflexion émergée d'un état quasi confusionnel. Vous êtes psychanalyste et psychiatre. On parle de l'enfance, de votre enfance.
Oui, alors moi, j'ai pas de lecture psychanalytique des œuvres musicales, parce que je suis pas assez calée pour ça. Moi, cette œuvre, c'est ce que, très probablement, enfin, ce que ça m'évoque, c'est d'une part ce que ma mère écoutait, probablement en boucle, peut-être pas interprétée par Horowitz. Et alors, quand je l'écoute interprétée par Horowitz, bon, je ne sais pas si c'est parce que j'ai appris des choses de lui, mais ce qui me touche, c'est le mélange de perfection et de fragilité. Mmh. C'est-à-dire, c'est la perfection et quand même, à certains moments, on se demande ce qui va arriver. Et je trouve que c'est particulièrement émouvant. Et puis aussi, alors déjà, peut-être vous avez compris que j'avais l'ambition de devenir danseuse, mais j'avais également l'ambition de devenir pianiste. Et donc l'idée...
Donc vous pratiquez le piano ?
Pas du tout. Ah. Alors là aussi, j'avais, comme vous l'avez compris, un professeur de danse qui n'était pas absolument génial. Alors, le professeur de piano, c'était encore pire, puisqu'il y avait une cousine de famille chez qui on m'envoyait pour... c'était une façon de lui donner de l'argent sans en avoir l'air. Alors, il faut dire que j'étais pas très douée, mais j'entendais la musique. Et donc, c'était une souffrance, parce que je n'y arrivais pas et je n'avais pas de plaisir. Voilà, je savais que c'était pas bien. Enfin, que c'était pas de la musique. C'est pas bien, parce que c'est une connotation morale qui n'était pas dans ma tête à cette époque-là. Mais je savais que ce n'était pas de la musique. Donc c'était une souffrance. L'idée d'un jour pouvoir jouer, peut-être pas comme Horowitz, mais ne serait-ce que de faire un peu de musique, voilà, je l'ai malheureusement abandonné, mais je l'ai caressé très longtemps, parce que j'ai repris la musique plus tard.
D'accord. Donc en fait, vous aviez conscience que vous ne jouiez pas bien, mais vous aviez l'espoir néanmoins d'y parvenir un jour.
Voilà, en travaillant par exemple.
D'accord. Votre mère, vous dites, écoutez, notamment cet impromptu de Schubert, c'était dans une pièce voisine. Votre mère, Françoise Giroux, il faut le rappeler pour ceux qui ne le savent pas.
Voilà, non, c'était dans son... Enfin, elle avait un appartement dans l'appartement, on va dire, avec sa chambre, son bureau, etc. Donc c'était son lieu. Mais voilà, comme
j'ai... C'est derrière les murs, quoi, vous entendiez ?
Non, parce que j'avais... Enfin, c'est pas que j'avais le droit, j'y allais. Et j'étais une petite fille extrêmement silencieuse et discrète, donc on m'oubliait, ce qui me permettait d'assister à des choses auxquelles je n'aurais pas dû assister.
Ah. Thank you. L'Allegro Manon Troppo Presto de la sonate numéro 23 en fa mineur opus 57 de Beethoven, la sonate Appassionata interprétée par François-Frédéric Guy, qui est une musique pleine de passion et d'orage, Caroline Eliachef, et qui est une œuvre encore de piano. Depuis le début, on n'écoute que du piano.
Oui, je pense pas que ça soit un hasard. Alors toujours dans les souvenirs d'enfance, donc j'avais un frère plus âgé que moi qui avait comme mission de m'éduquer, en particulier à la musique. Et alors je souffrais d'une chose, c'était de ne pas reconnaître les œuvres. Même encore maintenant, c'est pas tout à fait ça. Mais donc lui avait entrepris de m'expliquer comment on reconnaît une œuvre de Mozart, de Beethoven, etc., etc. Et en particulier avec la Passionata, voilà, il m'expliquait. Alors je me souviens plus exactement de ce qu'il m'expliquait, mais donc aujourd'hui je reconnais la Passionata et je sais distinguer la Passionata de Beethoven d'une œuvre de Mozart grâce à ces explications qu'il a dû me donner vers l'âge de 5-6 ans.
Ah oui, déjà à l'époque il fallait que vous sachiez... Oui,
C'est moi qui lui disais, mais comment on fait pour savoir qui c'est? Voilà. Encore aujourd'hui, alors, bon, ces œuvres-là, évidemment, maintenant, je les reconnais, mais quand j'écoute des airs d'opéra, par exemple, je suis absolument incapable de reconnaître le ténor ou la chanteuse, sauf Callas. C'est très curieux parce que je ne reconnais pas sa voix, je reconnais l'effet qu'elle me fait. Elle est la seule à me faire cet effet-là, c'est-à-dire vraiment un effet corporel. Donc c'est assez spécial.
Et la Passionata, en particulier, elle vous fait un effet ?
Pas comme Callas, mais voilà, ça me rappelle ces leçons de musique, entre guillemets.
Vous disiez, Caroline Léachef, que votre frère aîné avait pour mission de vous éduquer à la musique. C'est une mission cocasse pour un grand frère.
Non, il avait pour mission de m'éduquer à tout. pas seulement à la musique, à la psychanalyse, à beaucoup de choses. Donc, il a joué un rôle extrêmement important dans ma vie.
Et il avait combien d'années de plus que vous ?
Il avait 6 ans de plus que moi.
Eh ben, quelle mission !
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Caroline Eliachef, donc on parlait de votre frère qui avait pour mission de vous éduquer. Pourquoi ? Parce que votre mère n'était pas là pour le faire ?
Ma mère n'était pas là pour le faire, mais je pense que c'est pas ça qui... Enfin, voilà, j'étais sa petite sœur et...
Ça se passait comme ça.
Voilà, exactement.
Vous parlez, hein, vous avez parlé bien sûr de votre mère qui travaillait tout le temps. C'est un souvenir qui reste dans votre mémoire comme un souvenir...
Écoutez, c'était comme ça. J'avais pas tellement d'autres points de comparaison. Évidemment, j'avais des amis, mais à la maison, nous vivions ma grand-mère, ma mère et moi. Ma grand-mère était à la maison en permanence et ma mère sortait travailler. Et voilà, c'était comme ça. Donc oui, je m'en souviens très très bien, mais c'est pas du tout un souvenir. Mais mon Dieu, ma mère ne s'occupait pas de moi. Elle travaillait, etc., etc. Oui, elle travaillait parce que d'abord elle avait besoin de travailler, qu'elle adorait ça. Qu'elle le faisait savoir. Et par ailleurs, du coup, j'étais particulièrement libre.
Ça rejoint un peu ce que vous racontez de Françoise Dolto dans Une journée particulière, qu'elle aussi a consacré sa vie à son travail. Et vous racontez même qu'elle a utilisé, entre guillemets, l'expérience qu'elle vivait avec ses enfants pour réfléchir à des cas pratiques.
Oui, alors c'est quand même assez... Enfin, bien sûr, c'est différent parce que Françoise Dolto travaillait, c'est-à-dire recevait là où elle vivait. Et donc, elle avait 3 enfants. Son mari vivait évidemment avec elle. Mais quand on travaille dans le même endroit, c'est assez facile de rentrer et de sortir et de voir ses enfants. Il n'empêche qu'elle travaillait énormément. Et elle n'a pas analysé ses enfants, contrairement à d'autres psychanalystes qui se sont distingués dans ce domaine. Pas du tout. Elle les a observés. Et dans les premiers articles qu'elle a écrits, à partir de 47, c'est-à-dire que ces 3 enfants sont nés pendant la guerre, ou juste à la fin de la guerre, elle raconte des petites scènes de la vie qui l'ont inspirée, mais elle ne s'est jamais servie de ses enfants pour les analyser, heureusement pour eux et pour elle.
Le calme de ce deuxième mouvement, avant le troisième mouvement de ce concerto pour violon en ré majeur opus 35 de Tchaïkovski, interprété par Joshua Bell avec l'orchestre de Cleveland sous la direction de Vladimir Ashkenazy. Il y a quelque chose de très slave dans cette, surtout dans ce mouvement-là, Caroline Eliashev. Et c'est un moment de votre vie qui est un peu plus tardif, là.
Oui, alors Tchaïkovski, c'est ma mère qui adorait Tchaïkovski et moi pas du tout. Donc je trouvais qu'elle avait très mauvais goût.
Qu'est-ce qui vous plaisait pas?
Ah, j'aime pas. Je n'aime pas. Je trouve ça un peu sirupeux. Voilà, j'aime pas. Elle était par ailleurs très amie avec Igor Markevitch. Très, très amie. Et elle a des souvenirs marquants de mon enfance. C'est que Igor Markevitch l'avait emmenée dans une tournée en Russie. Et donc, voilà, elle partait, ce qui était assez habituel. Et en revenant, elle m'avait dit quelque chose qui m'avait blessée à un point incroyable. Elle m'avait dit, alors qu'il n'avait jamais été question que je parte avec elle, elle m'avait dit, oh, en fait, j'aurais pu t'emmener avec moi. Et comme j'étais jamais partie avec elle, que j'ai jamais passé 8 jours de vacances avec elle, voilà, je pense qu'elle aurait mieux fait de ne pas me le dire. Et en même temps, voilà. Donc Igor Markevitch a marqué un petit peu mon enfance. Il venait souvent à la maison. Et en même temps, Tchaïkovski, voilà, j'aime pas.
Toujours pas.
Non, toujours
là,
pas.
Là, en écoutant cette...
Si, mais voilà, c'est pas la musique que je préfère.
On parlait donc de la tournée, hein, laquelle votre mère vous a pas emmenée. Et ça nous renvoie aussi au film de Radu Mihailenu, dans lequel il utilise ce concerto pour violon en ré majeur de Tchaïkovski pour raconter un concert et un concert qui est difficile à monter. Et ce concerto est joué. Ça me fait penser évidemment à votre père, dont on n'a pas encore beaucoup parlé, Caroline Aliachev, mais qui était dans le cinéma lui aussi.
Oui, tout à fait. Mon père était producteur. Il vivait entre l'Italie et la France et s'occupait à la grande époque du cinéma italien des coproductions franco-italiennes. Donc voilà, j'allais régulièrement passer des vacances à Rome avec lui. Et il m'emmenait partout, lui il m'emmenait partout, mais très peu souvent.
Avec donc le monde du cinéma qui vous entoure, j'ai lu que vous voyez souvent Signoret Montand.
Oui, Signoret Montand, en fait, et toutes sortes de gens, c'était des familiers de la maison, parce que oui. Ma mère aussi connaissait tous ces gens-là, donc ce milieu de cinéma m'était tout à fait familier. C'était des gens qui venaient à la maison, que je voyais souvent, etc. Et en Italie, avec mon père encore plus, tous les producteurs de l'époque, je les connaissais très bien.
Alors vous, dans votre discrétion infantile, Caroline Aliachev, vous les regardiez, vous avez absorbé?
Absorbé, je ne sais pas. Je dirais que c'était familier. Voilà, c'est le monde dans lequel je vivais. Alors il y avait le cinéma, il y avait évidemment la politique, parce que les hommes politiques, il y avait plus d'hommes que de femmes encore à l'époque, étaient également les familiers de la maison. Et donc voilà, le milieu d'adultes dans lequel je baignais, c'était le cinéma et la politique.
Thank you.
Ich hatte viel Bekümmernis, mon cœur était affligé de peine, la cantate BWV 21 de Jean-Sébastien Bach. Pour évoquer une autre partie de votre vie, Caroline Eliachef.
Mais là, j'ai grandi. C'est la cantate numéro 21 que j'écoutais quand j'avais 21 ans. C'est pour ça que je me souviens très précisément de cette cantate. Donc voilà, je suis partie depuis fort longtemps de la maison. Je suis déjà en troisième ou quatrième année de médecine. Et effectivement, j'ai énormément écouté cette cantate. Mais voilà, le gimmick pour m'en souvenir, c'est que c'est la cantate numéro 21. Et je me disais, voilà, j'ai 21 ans et j'écoute cette cantate.
Mais votre cœur était-il affligé de peine à ce moment-là?
Pas vraiment, non. J'étais engagée dans mes études de médecine largement. J'adorais ça et tout allait bien.
Et vous l'écoutiez pour vous concentrer, pour vous
Alors, je
détendre.
L'écoutais comme je n'écoute plus maintenant, c'est-à-dire vraiment en travaillant, en bruit de fond, ce que je ne fais plus jamais, d'avoir de la musique classique en bruit de fond. Mais à l'époque, oui.
Donc, vous étiez en quatrième année de médecine, 21 ans. Vous étiez déjà maman, puisque oui. Vous avez été mère très jeune.
Très jeune. À 16 ans.
À 16 ans, vous avez quitté le domicile parental à 14 ans. Qu'est-ce qui a motivé ce départ? C'est l'amour?
L'amour.
Vraiment?
L'amour, voilà.
Et des ailes qui vous ont été données par vos parents, qui vous ont laissé partir?
Oui, ma mère m'a laissé partir, ce qui n'était pas forcément évident à l'époque déjà, parce que c'était en 63, donc voilà, c'était pas du tout évident.
Puis mais vous étiez mineure?
J'étais tout à fait mineure. Je partais avec un grand acteur qui avait 19 ans de plus que moi, donc c'était pas du tout évident. Alors je dis ça maintenant, mais à l'époque, moi je trouvais ça tout à fait normal. Et voilà, ma mère avait deux possibilités, soit elle me faisait confiance, et c'est ce qu'elle a fait, en disant écoute, c'est ta vie, tu fais ce que tu veux et donc je vais t'aider, soit comme elle me l'a dit, je t'envoie en pension en Angleterre. Donc elle a pris le parti de me laisser faire.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Caroline Eliachef, vous êtes l'invitée de Musique et moi ce matin jusqu'à midi et demi sur France Musique. Et vous avez publié ce livre « Une journée particulière », Françoise Dolto. Françoise Dolto, vous l'avez découverte quand vous faisiez vos études de médecine précisément?
Non, plus tard. En quatrième année de médecine, c'est à peu près le moment où j'ai commencé mon analyse. Donc j'ai commencé mon analyse avec Jacques Lacan.
À l'âge de 21 ans, avec Jacques Lacan?
Oui, même un petit peu avant. Et à l'époque, donc, il y avait deux grandes figures, il y avait Lacan et Dolto. Mais je savais évidemment qu'elle existait, je savais ce qu'elle faisait, etc. Mais je n'ai pas suivi cette voie, parce que moi j'ai commencé à travailler à l'hôpital avec une autre personne tout à fait remarquable, Ginette Rimbaud, qui a été la première psychanalyste, chercheuse on dit maintenant, à l'INSERM. Donc elle avait cette unité de recherche et c'est là que j'ai travaillé pendant 20 ans.
Claudio Arrau interprète les funérailles des harmonies poétiques et religieuses de Franz Liszt. C'est un hommage funeste rendu aux 16 grands officiers hongrois, ainsi qu'au président du conseil qui ont été exécutés en octobre 1849, lors de la Révolution, mais également un hommage à son ami Chopin, qui est décédé, lui, en octobre 1949. Puisque octobre 49 figure en exergue de la partition, Caroline Eliashev, c'est un moment... profond, sombre, ténébreux, qui correspond à un moment de votre profession. Est-ce que ça correspond au moment de la psychiatrie, enfin de...
Pas du tout, pas du tout. En cherchant des morceaux de musique correspondant à la psychiatrie, je n'en ai pas trouvé. Mais heureusement, j'ai d'autres cordes à mon arc. Et donc, au moment où Claude Chabrol m'a proposé de faire les scénarios de certains de ses films, dans lesquels, alors Claude, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que Claude Chabrol connaît admirablement la musique, mille fois mieux que moi. Il n'empêche que c'est moi qui écrivais le scénario et que donc j'étais censée quand même lui apporter des idées. Et donc, dans ce film qui s'appelle Merci pour le chocolat, où il y a un pianiste et une élève pianiste, il fallait trouver les morceaux de musique qu'ils allaient jouer dans le film. Donc il y avait deux choses, il y avait ce morceau-là et puis il fallait qu'ils jouent à deux pianos. Et donc, pendant des semaines, j'ai écouté absolument tout ce que je trouvais à deux pianos pour proposer des morceaux de musique à Claude Chabrol, et effectivement il y en a un certain nombre dans le film. Donc ça m'a beaucoup appris, j'ai beaucoup aimé ça. Alors j'ai appris aussi comment on emballait les chocolats, comment on produisait les chocolats, parce que c'était Merci pour le chocolat, mais et comment on faisait le chocolat, mais également ces morceaux de musique.
Donc ça, c'est la corde à votre arc qui est venue un peu plus tardivement, Caroline.
Nettement plus tardivement, d'autant que ça n'est pas un métier. C'est voilà, c'est arrivé un peu, oui, on va dire un peu par hasard, et voilà.
Mais justement, je me suis demandé comment vous en êtes arrivé à la psychiatrie, la médecine bien sûr, mais la psychiatrie infantile en particulier. Qu'est-ce qui vous a amené là ?
Alors, j'ai jamais eu le souhait, l'ambition, l'envie de m'occuper particulièrement d'enfants. Mais à l'époque, quand on commençait à travailler, les premiers postes que l'on trouvait, c'était dans les centres médico-psychologiques, donc qui s'occupaient d'enfants. Et donc, on arrivait là sans rien connaître à rien, et on faisait le métier, je pense, le plus difficile qui soit. Alors, la plupart de mes amis qui ont fait la même chose que moi, ils venaient pendant un certain temps dans ces CMP pour enfants, et puis grande promotion, on s'occupe des adultes. Moi, je suis un peu comme les chats, quand j'ai un panier confortable, j'y reste. Donc, j'ai énormément aimé travailler dans le secteur public, et ensuite m'occuper d'enfants, mais... pas du tout avec la conscience de « je m'occupe d'enfants ». J'avais la conscience d'exercer un métier qui me plaisait, et c'était des enfants accompagnés de leurs parents qui venaient me consulter.
Un extrait des sept dernières paroles du Christ en croix, opus 51 de Joseph Haydn. L'extrait, c'est Eli Lama Sabachthani, interprété par le quatuor Casals. Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Cette phrase du Christ en croix, et qui me permet d'aborder avec vous, Caroline Eliashev, la question de la rencontre, de votre rencontre avec Françoise Dolto. Vous l'avez rencontrée à quel moment de votre vie?
Aucune idée. Je ne sais absolument pas quand je l'ai rencontrée pour la première fois. Encore une fois, elle faisait partie du paysage, comme ça. J'ai commencé à travailler avec elle tout à fait à la fin de sa vie. Et avant d'assister à cette consultation que je raconte dans mon livre, j'étais devenue très amie avec sa fille Catherine, et nous avions pensé que, voyant qu'elle vieillissait, c'était quand même visible, ça serait bien de l'enregistrer, c'est-à-dire de constituer des archives. Et donc, pendant 2 semaines, je crois, dans le cours des années 86, avec Jean-Pierre Winter et Catherine, nous l'avons enregistré en continu, comme ça, nous avons 18 heures d'archives. Mmh. Donc, c'est à ce moment-là, véritablement, que je l'ai rencontrée. Alors, évidemment, je la connaissais, mais je ne l'avais pas véritablement rencontrée. Ensuite, j'ai assisté à sa consultation, mais j'étais déjà assez âgée. Et j'étais déjà une psychanalyste, qui travaillait, etc., etc.
Le choix de cette œuvre de Haydn, qui d'ailleurs met sous forme purement instrumentale des paroles, oui, du Christ, je l'ai choisi à dessein pour vous parce que quand on lit Une journée particulière, Françoise Dolto, Une journée particulière paru chez Flammarion, on s'aperçoit que la question de l'abandon est centrale dans l'œuvre de Françoise Dolto. On sent bien qu'il y a quelque chose qui se joue par rapport à l'abandon qu'elle a pu vivre. Et celui qu'elle sait peut-être résoudre du côté des enfants en souffrance.
L'abandon qu'elle a pu vivre, non. Elle a... comment dire ça ? Elle vivait au sein d'une famille nombreuse. Dans une famille nombreuse, c'est pas très facile de se distinguer, mais elle se distinguait nettement. Et le drame de son enfance, c'est évidemment la mort de sa sœur aînée. Elles étaient 2 filles et 5 garçons, donc cette sœur aînée est morte. Et ça a bouleversé l'atmosphère de la famille, qui était une famille plutôt gaie. Et à ce moment-là, une chape de plomb est tombée sur cette famille. Ensuite, elle a, dans son parcours de psychanalyste, à un moment, elle s'est penchée sur l'Évangile parce qu'elle pensait que, en tant que psychanalyste, elle avait quelque chose à dire. Ça lui a été reproché, etc. Et donc, c'est intéressant que vous passiez cet extrait musical parce que ça évoque tout à fait sa lecture à elle de l'Évangile, où elle a des pages absolument admirables.
Vous évoquez une belle séquence avec Bernard Pivot, qui d'ailleurs l'interroge sur cette croyance qui est la sienne. Et la réponse qu'elle donne, c'est une réponse par rapport au doute.
Oui, c'est-à-dire que, je me souviens plus exactement de la phrase, mais il lui dit, vous êtes croyante, donc il dit oui, vous êtes pratiquante, et à ce moment-là, elle s'arrête parce que, en réalité, elle est très peu pratiquante, oui, très très peu, mais bon, de temps en temps, elle va à la messe, mais elle n'ose pas le dire, donc il y a un moment d'hésitation, il faut voir la scène, parce que c'est assez amusant. Et puis Pivot lui-même est assez surpris. Puis ensuite, elle enchaîne sur la façon qu'elle a eue de lire les évangiles, et c'est intéressant parce que cette lecture des évangiles dans le catholicisme n'est pas dévolue à tout un chacun. En revanche, dans le protestantisme, ce ne sont pas seulement les prêtres, les évêques, etc., qui peuvent donner leur interprétation. Et donc, c'est une vision tout à fait protestante, enfin psychanalytique et protestante, de la lecture des évangiles.
Mm-hmm.
Nathalie Dessay, qui interprète la scène de la folie dans Lucia di la mer mort de Gaetano Donizetti, pour évoquer avec vous, Caroline Eliachev, ce lien que peut avoir la musique avec l'exercice de votre métier, la psychiatrie, surtout dans une scène comme celle-ci.
Oui, alors ce qui est, j'avais jamais pensé me pencher là-dessus. Et puis Anne Maury, qui est la femme d'Emmanuel Krivine, à un moment m'a demandé de travailler là-dessus. Donc, pour la première fois, j'ai eu la possibilité, on va dire comme Françoise Dolto avec les évangiles, moi j'ai eu la possibilité de poser un regard de psychanalyste sur quelque chose que j'adorais, à savoir l'opéra, et en particulier les voix de femmes, et en particulier les scènes de la folie. Alors il y a effectivement, bon, Michel Schneider a écrit là-dessus, il a écrit des choses formidables.
Le psychanalyste, hein, ouais.
Voilà, le psychanalyste Michel Schneider, lui, il connaît vraiment beaucoup, beaucoup mieux que moi, mais je me suis concentrée sur ces scènes de la folie, parce qu'il y a un rapport intime entre, d'une part, la psychiatrie et l'opéra qui sont nés à la même époque, 1600 et quelques, Monteverdi, et puis ensuite, évidemment, un rapport entre la psychanalyse et la folie, et les scènes de la folie en particulier. Freud lui-même, dans les études sur l'hystérie, a eu, je crois, trois patientes qui étaient justement
cantatrices. Oui.
Voilà, des cantatrices qui venaient parce qu'elles n'arrivaient pas à chanter, etc. Donc on voit le lien qu'il a pu... C'est dans les études sur l'hystérie, donc on voit que les chanteuses l'ont lui-même inspiré.
Mais là, d'ailleurs, dans cette scène de la folie, on est dans un cas clinique presque d'hystérie, non ?
Tout à fait, on est dans un cas... Alors, c'est-à-dire, ce qu'il a fait entrer dans la folie, c'est un événement extérieur, c'est-à-dire un traumatisme, entre guillemets, surtout comme on disait à l'époque. Alors, les traumatismes, c'est toujours la même chose. Hein. Enfin, dans les scènes de la folie, c'est toujours l'abandon, la trahison, etc., etc. Et donc, voilà, ça fait entrer la personne dans le monde du délire. Et effectivement, la psychanalyse s'est occupée et s'occupe encore beaucoup des femmes et des femmes souffrantes.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Caroline Eliachev, l'émission va bientôt se terminer. Vous êtes l'invitée de Musique et moi ce matin. La place, justement, qu'occupe la psychanalyse dans la musique n'est pas si présente. Et pourtant, les œuvres musicales racontent souvent des histoires personnelles, en étant bien sûr posées comme des musiques. Mais dans l'œuvre que nous allons écouter, le concerto à la mémoire d'un ange, là, on est exactement dans le cas de figure où l'on raconte une histoire tout en...
à fait. Alors, il y a plusieurs aspects. Évidemment, les créateurs, les musiciens s'expriment et racontent des histoires en composant. Concerto à la mémoire d'un ange, donc il s'agit d'un deuil, évidemment. Alors, il y a une autre chose aussi qui rattache la psychanalyse à la musique, c'est la question de la voix. Hein. On parlait de l'opéra précédemment, c'est la question de la voix. Pour faire une analyse, il faut parler, et dans les scènes de folie, il faut chanter.
Et est-ce que la musique peut, comme on l'écoutait tout à l'heure avec Haydn, remplacer la voix et faire entendre quelque chose d'autre au-delà de ce que les mots peuvent dire?
Oui, Caroline, je pense. Alors ça, c'est la question de la création, hein, qui transcende effectivement ce que l'on veut exprimer, quel que soit le mode de création, que ce soit la musique, la peinture, il y a toujours un au-delà, et c'est ce à quoi aspirent les créateurs.
Thank you.
Un extrait du concerto à la mémoire d'un ange d'Alban Berg, interprété par Pinchas Zukerman avec l'Orchestre symphonique de Londres sous la direction de Pierre Boulez. Une œuvre que vous avez appris à aimer, Caroline Eliashev.
Oui, parce que c'est pas, enfin, au début, on va dire, c'est pas évident. Voilà, c'est une œuvre que j'aime énormément, mais pas à la première écoute. C'est-à-dire, je crois qu'il faut l'écouter, la réécouter, comprendre un petit peu cette évolution aussi de la musique pour arriver à l'apprécier. Mais je trouve ça absolument admirable. Et je dois avouer, quand même, à ma grande honte, que après Alban Berg, Schoenberg, etc., j'ai vraiment plus de mal.
Donc là, on est à votre limite.
Voilà, vous êtes à ma limite.
J'aimais bien l'idée de finir, presque finir, avec ce concerto à la mémoire d'un ange, puisque c'est dédié à l'enfant de Alma Gropius, qui entre-temps avait épousé le célèbre architecte du début du XXe siècle allemand, composé par Alban Berg, puisque c'est dédié à leur enfant disparu. Vous qui travailler avec les enfants, vous qui avez écrit ce livre Françoise Dolto, Une journée particulière, où la question de l'enfance est centrale. Est-ce que aujourd'hui vous dressez le bilan de cette grande psychanalyste qui a été Françoise Dolto, si grande qu'on a même tendance à en oublier sa mémoire? Est-ce que vous considérez, d'après ce que j'ai lu, oui, mais qu'elle a joué un rôle phare par rapport à l'évolution de la considération qu'on peut avoir envers l'enfant?
Oui, je pense qu'elle a été une de celle qui a vraiment contribué à ce que la vision que les adultes avaient des enfants change radicalement. Ce qui est très intéressant, c'est que elle-même a toujours eu cette vision, c'est-à-dire aussi elle a vécu donc avec ses frères, etc., etc. Elle a toujours considéré, depuis qu'elle est elle-même toute petite, que les enfants, les petits frères qui l'entouraient, et elle-même était quelqu'un de communication, etc., etc. Mais il a fallu aussi que la société évolue pour que ce qu'elle dise prenne, en quelque sorte. Et effectivement, dans les années 70, la société ayant quand même beaucoup bougé, les parents, les jeunes qui sont devenus parents à ce moment-là, avaient à cœur, je crois, d'élever leurs enfants pas comme ils avaient été élevés. Et à ce moment-là, ce qu'elle disait, je crois, a pris en masse.
Est-ce que vous pensez que le fait qu'elle ait été en quelque sorte oubliée n'est pas en quelque sorte une gloire de sa transmission,
puisque... Oui, absolument. C'est-à-dire que, alors, est-ce qu'elle est oubliée? On n'en parle pas tous les jours, évidemment. Mais je pense que, enfin, des gens comme moi, peut-être vous ou d'autres, ont tellement intégré ce qu'elle nous a transmis que, évidemment, on y va, quoi. Mais on se dit pas, ah, je le dois à Françoise Dolto. Donc, d'une certaine manière, oui. Je pense qu'on n'en parle plus beaucoup. Là, on en parle maintenant. Je pensais pas que, voilà, ça lui redonnerait comme ça cette présence vivante, mais j'en suis très contente. Et en même temps, je crois que on a tous à l'intérieur de nous un peu de Françoise Dolto.
Absolument. Et le livre que vous consacrez à Françoise Dolto, Une journée particulière, lui rend un immense hommage et une mémoire tout à côté de nous. Merci beaucoup, Caroline Eliashev.
Merci à vous.
Et on va se quitter avec un des quatre derniers leaders de Strauss, interprété par Anne Petersen, un concert donné le 7 septembre 2017 à l'Auditorium de Radio France, le concert d'ouverture de la saison, un concert auquel vous étiez, Caroline Eliashev.
Oui, absolument, et que je n'aurais raté pour rien au monde, parce que j'aime beaucoup Emmanuel Krivine, et voilà, ce concert était formidable, et il était hors de question que je n'y sois pas.
Un grand merci d'être venu à Musique et moi ce matin.
Caroline, merci à vous, Elsa.
Au revoir. C'était Musique et moi en compagnie de Caroline Eliachev ce matin. Je vous rappelle que son dernier ouvrage s'appelle Françoise Dolto, une journée particulière. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant cette émission sur le site de France Musique à la rubrique Musique et moi. Un grand merci à Julien Doumain qui était à la prise de son ce matin. C'est Sophie Pichon qui réalise cette émission, assistée de Marie Ferdinand et de Pierre Tessier. Un très beau dimanche à l'écoute de France Musique. Je vous retrouve dimanche prochain, 11h.
France Musique.